Je sentais de la lumière, je sentais vraiment de l'apaisement. Et vraiment, ce que le sentiment que je sentais le plus, c'était la rahma. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que le début de ce roman, c'est les souffrances de Khaltin Najah.
Ce livre, en fait, c'est un livre pour toutes les personnes qui ne sont pas encore des Najah, pour ces personnes qui ne sont pas encore arrivées où l'âme nous est reprise avec douceur. C'est pour les femmes comme nous qui essayons de faire de notre mieux, mais qui parfois galèrent.
Parce qu'à travers ce livre, moi, ce que je vois, c'est l'amour que Allah il nous porte.
La mort de Khaltin Najah, c'est la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ouais.
Voilà.
J'ai fermé ce livre et je me suis dit, Eline, plus que jamais, il faut que tu réussisses ta mort. Faut vraiment que tu réussisses ta mort.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Environ une fois par mois, j'ai à cœur de vous faire découvrir des ouvrages qui nous emmènent plus loin dans notre réflexion sur le mariage et plus largement sur le sentiment amoureux. À travers des essais, des romans, des livres religieux, on essaiera de comprendre comment aimer mieux, que ce soit dans son couple, dans sa fratrie et plus largement dans sa vie. On parle aussi de l'amour qui nous lie à Dieu parce que, comme vous le savez, c'est LA condition sine qua non pour une vie heureuse. Installez-vous confortablement et préparez-vous à vivre un très bon moment. Bienvenue dans le Halal Book Club. Il y a des sujets qu'on aime peu aborder, parce que les souvenirs qui y sont liés sont d'une tristesse infinie que rien ne tarit. Parce qu'on a terriblement peur de ne jamais se relever d'une telle douleur. On a tous une bonne raison de ne pas donner à la mort une place dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie. Pourtant, il est possible de la voir différemment, de la vivre autrement, sereinement. Oumaima nous le prouve dans son ouvrage « Ton dernier regard » et si la mort devenait le plus beau jour de ta vie. Avec Eline, du podcast Le Télivresque, on revient sur ce livre qui a bouleversé nos vies en bousculant notre vision de la mort. On en profite pour évoquer le sujet de la darwa et de la manifestation de la grandeur d'Allah au moment où l'âme s'en va. Cet épisode est tout sauf triste, tout sauf anxiogène. Bien sûr, il y a de la peine, mais il y a aussi de l'espoir. Et puis surtout, il y a de l'amour, toujours. Avant de vous laisser avec mon invité, j'envoie toutes mes tendres prières et mes douces pensées aux personnes dont les parents nous ont quittés. Je ne le dirai jamais assez, mon admiration à votre égard va bien au-delà des mots. Elle est située quelque part, bien au-dessus de moi, entre l'infini et l'au-delà. À toutes et à tous, je vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Eline, comment tu vas ?
Wa alaikum salam, ça va et toi ?
Très très bien, je te remercie. Je suis ravie de te recevoir une seconde fois dans le cadre du Halal Love. On avait échangé la première fois sur le livre de Colleen Hoover, Jamais plus, en français, It Ends With Us, en anglais. Et c'était un plaisir de discuter de ce livre et de pouvoir ouvrir aussi le champ de la discussion sur la manière de percevoir l'amour et la manière dont on peut faire mieux pour avoir un amour dans le cadre de son mariage qui ressemble plus à ce qu'Allah attend de nous. D'ailleurs, les retours ont été dithyrambiques à ton sujet, donc je ne serai pas la seule, je pense, à être ravie de te revoir à nouveau, en cas de t'entendre, Inch'Allah.
Alhamdulillah. C'est avec très, 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 très grand plaisir que je reviens sur le podcast aujourd'hui.
Alhamdulillah. Alors, Eline, aujourd'hui, on va parler d'un tout autre livre. C'est un livre qui se situe un peu entre l'autobiographie et le roman. En tout cas, c'est comme ça que l'autrice elle-même le définit. Et c'est un autre sujet, c'est le sujet de la mort. Donc, on pourrait se dire deux salles, deux ambiances. Et finalement, pas tant que ça, on va voir pourquoi. Ce livre, c'est donc « Ton dernier regard » et « Si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie ». Et c'est d'Oumaima Amjid. Cette histoire, elle est assez particulière puisque, en fait, le livre commence, entre guillemets, un peu par la fin. C'est-à-dire qu'on sait bien que notre protagoniste, elle va mourir. Mmh. Et on en parlera après, mais je ne sais pas comment toi tu l'as vécu. Mais alors moi, j'ai beau savoir qu'elle va mourir, il y a toujours un moment où je me dis « Ah non, j'espère que ça ne va pas venir. » Le début. n'importe quoi. Alors que quand même, c'est écrit dans la quatrième de couverture. Et donc c'est l'histoire de, à la fois d'Oumeima et de sa maman, qui s'appelle Najia, qu'on va appeler, enfin moi en tout cas je l'appellerai Khalti Najia, parce que c'est comme ça que ses amis l'appellent, et Khalti c'est Tata, en tout cas dans le dialecte marocain. Et donc Khalti Najia, c'est une femme qui apprend qu'elle a un cancer assez fulgurant, mais qui avant cela a une vie qui est riche en, pas forcément en rebondissements, mais en apprentissage. Et au moment de sa mort, qui est un jour que l'on pourrait tous un peu percevoir comme le pire de la vie d'Oumeima et de ses frères et sœurs, c'est le plus beau jour de sa vie à elle, et probablement de sa maman aussi. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. On espère vraiment qu'elle fera par la lui fasse miséricorde et l'accueil dans son vaste paradis. Inch'Allah. Amine. C'est un jour qui est magnifique parce que c'est un jour qui est en plein de miracles, de grâce. Et Oumeima nous raconte tout ça. Je disais que c'est entre le roman et l'autobiographie parce que les faits contés sont réels, mais il y a certains passages qui sont un peu romancés. Et puis, il y a une manière surtout d'écrire qui est belle, qui est subtile et qui nous emporte sans ça aussi, pour moi, ça s'approche plus du roman. Eline, je vais te demander, pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de lire cet ouvrage ?
Moi, c'est un livre dont j'avais absolument jamais entendu parler avant que mon amie me l'offre. Et donc, elle me l'a offert. Et c'est vrai que dès que j'ai vu le titre, je me suis dit, c'est intéressant. Tu vois, c'est particulier comme titre de livre. Et c'est vrai que là, et je me posais vraiment la question de ce qu'elle voulait dire par ton dernier regard. Vraiment, ce début du titre.
Dès le départ, d'accord.
Ah, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, juste avant que tu ailles plus loin, pardon, je t'interromps, mais pourquoi ton amie, elle te l'a offert ?
Parce qu'elle
l'a lu ou pas ?
Ouais, en fait, elle suivait Oumeima, mais elle suivait, en plus, il me semble, Oumeima depuis un moment, tu vois. Et donc, elle avait vraiment hâte de lire le livre. Elle a lu le livre, elle était elle-même bouleversée par le livre, et elle a dit, il faut absolument que Lola, d'ailleurs, qui fait le podcast TRS avec moi, Lola et Eline, il faut absolument qu'elle le lise. Et elle nous l'avait offert pour l'Aïd il y a, du coup, 2 ans. Et j'ai pris quelques mois pour le lire. Et j'ai lu bien en septembre, tu vois. Et en fait, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, oui, ça me parle de ouf. Enfin, on est sur Terre pour... Tu vois, moi, j'ai jamais fait partie des gens qui avaient peur de la mort. J'ai jamais été une grande
angoisse.
Ouais, non. Enfin, c'est juste, j'y pense pas. Enfin, j'y pensais
ouais,
pas.
Ouais, non, la mort, c'est quoi ? Ouais, bah non, non. Excuse-nous, Eline.
Non, on va tous y aller. C'est juste que j'ai pas envie de m'angoisser la tête dessus. Et tu sais, quand t'es pas musulmane, la mort, il y a des gens qui sont très angoissés, tu vois. Moi, c'était pas trop un truc qui me parlait plus que ça. Moi, c'est plus la vie sur Terre qui me faisait peur, tu vois.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Parce que justement, quand tu découvres l'islam, t'es plus. T'es censé être moins angoissé, justement, qu'avant, alors que toi.
En fait, non. Après, avec la découverte de l'islam, là, c'est là où, justement, ma perception de la mort, elle a changé. Puisque c'était. Là, ce qui m'angoissait, c'était pas de mourir, mais de mal mourir. Ça, c'était vraiment devenu une giga angoisse. Enfin, même la raison pour laquelle je me suis convertie en premier, c'est pas la conviction la plus absolue de la vérité de l'islam, c'est que j'avais vraiment, vraiment, vraiment peur de mourir demain et de me dire, si tu meurs demain, tu meurs mécréante. Et là, c'est fini pour toi.
C'est pas vrai.
Donc, c'est vraiment... ma perception de la mort, elle a changé tout au long, en fait, de mon cheminement spirituel. Et donc, quand je commence à lire ce livre, moi, ça fait 1 an déjà que je suis musulmane, et ça fait déjà, tu vois, 1 an que je commence à me dire, Eline, ta vie sur Terre, elle a d'intérêt seulement si ta vie dans l'au-delà, elle est bien, tu vois. Si tu arrives à assurer un truc plutôt pas mal, au moins, tu fais ce que tu peux, tu vois. Après, c'est Allah qui décide, mais toi, tu essaies de faire ce que tu peux. Donc, tu vois, je commençais à avoir un peu ce cheminement. Et là, je commence à lire ce livre et c'est incroyable parce que c'est littéralement tout le but, en fait, de ce
complètement.
Roman.
Complètement.
Un roman slash de ce livre, en tout cas, on va appeler ça comme ça, ce sera plus simple. Et c'est vrai que moi, dès les premières lignes, Oumeima, elle m'a grave eu. Vraiment, sa plume, masha'Allah. Vraiment, masha'Allah, elle a une plume incroyable. Et c'était parti. Si j'avais pu, j'aurais lu, je pense, le livre en une fois. Mais bon, évidemment,
c'est vrai.
Ah non, mais moi, j'étais vraiment addict. J'étais vraiment, vraiment, vraiment addict. C'est-à-dire que je l'ai commencé la veille d'un voyage où j'allais prendre l'avion pour partir quelque part. Et donc, je le commence le soir et je me dis, mais c'est trop bien. Genre, vraiment, tu sais, ce truc de quand tu commences un super bon livre et que t'as pas du tout envie de lâcher, sauf que bon, tu prends quand même l'avion dans 4 heures, donc il s'agirait de dormir un peu.
Il s'agirait de faire des choix, en fait.
Et donc, je commence à faire ça. Et donc, je me souviens, à l'aéroport, j'étais en mode hâte de m'asseoir pour pouvoir lire, tu vois. Et donc, et je me souviens, genre, c'était, j'attendais là, juste avant de rentrer dans l'avion, et je lis, et plus je lisais, et je sentais tellement d'apaisement. Vraiment, je sentais de la lumière, je sentais vraiment de l'apaisement. Et vraiment, le sentiment que je sentais le plus, c'était la rahma. C'était l'amour et la miséricorde. C'était vraiment, c'était quelque chose qui m'envahissait. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que le début de ce roman, c'est les souffrances de Khalti Najah. C'est galère. Oui. On n'est pas sur le niveau, on passe un bon moment. Oui.
Complètement, complètement. Mais c'est sur la... Enfin, moi, c'est ça que j'aime dans ce début, c'est que c'est la vraie vie, en fait.
C'est ça, enfin, exactement.
Moi, j'en parlerai après, mais je ne me suis jamais sentie aussi proche de Khalti Najah qu'à ce moment-là.
Ado.
Vraiment. C'est vraiment... j'en parlerai après parce que justement, ça fait partie du passage que je souhaite citer. Mais en tout cas, je trouve que c'est dur et pourtant, ça reste en plein d'amour malgré tout.
Exactement.
Je trouve. Ouais, et en fait, je t'ai posé la question de pourquoi ton ami t'a offert ce livre. Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert Ton Dernier Regard et plus précisément Oumaïma via son podcast, le Miracle Fajr Podcast. Okay. Qui est donc un podcast qu'elle diffuse tous les jeudis, je crois. Mmh. Et c'est un podcast qui soutient, en gros, qui vient un peu en soutien de son programme Miracle Fajr Routine. Le Fajr, c'est la première prière du musulman et ça se passe le matin. Et en fait, elle aide les femmes à s'approprier ce moment-là en expliquant que c'est un moment qui est précieux et qui peut déterminer toute ta journée, si ce n'est ta vie, quand c'est bien fait. Ouais. Et donc, elle en parlait dans son podcast. Et je me disais, ah, dis donc, il faudrait que je l'achète. Et puis, en fait... j'ai eu des personnes autour de moi qui ont perdu des mamans d'un cancer. Qu'Allah soit là, leur fasse miséricorde. Et moi, je me suis dit, je vais leur offrir ce livre-là. Peut-être que ça les aidera à traverser ce deuil. Sauf qu'en fait, c'est une erreur que j'ai faite. Ce n'est pas une erreur d'avoir offert un cadeau. Hein, mais c'est une erreur d'avoir pensé que ce livre, c'était essentiellement pour des personnes qui traversent un deuil. Pas du tout. Ce livre-là, c'est un livre... c'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui vont mourir. Donc après, c'est ça. Tout le monde. C'est un livre qui servira à toutes les personnes qui sont en vie et qui souhaitent faire de leur vie la porte d'entrée vers le paradis et de leur mort un trésor pour leurs proches parce que ça peut vraiment être ce qui représentera la force, la rahma et même l'existence d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc a priori, ce livre, il est pour tout le monde. Et tout comme toi, subhanallah, quand je l'ai acheté, je l'ai posé dans ma bibliothèque et j'ai continué ma vie. Parce que je pense qu'inconsciemment, même si on a un rapport qui n'est pas trop angoissé à la mort, ce n'est pas un sujet sur lequel on va facilement.
Bah, bien sûr, c'est dur.
Voilà, exactement. Et au final, tu vois, quand je l'ai pris, quand je l'ai eu en main, c'était fini. Je ne l'ai pas lu d'une traite. Moi, j'ai vraiment eu plaisir à le reposer à certains moments. Mais c'était, j'ai vraiment eu des moments douloureux. J'ai eu des moments douloureux, mais j'avais quand même, je ne peux pas dire plaisir, parce que plaisir, ça pourrait être un peu mal perçu, mais j'étais heureuse de retrouver Oumaïma et sa maman.
C'est hyper juste ce que tu as dit sur le fait de faire de sa vie une porte d'entrée au paradis, mais surtout de sa mort, un trésor pour nos proches. C'est hyper, hyper juste parce que je trouve que c'est vraiment, c'est tellement pas la vision. En tout cas, moi, vraiment, c'est grâce à ce livre que j'ai appris que ça pouvait être ça, la mort.
Complètement.
Et c'est tellement pas la vision qu'on a de la mort de manière générale dans nos sociétés. C'est, tu vois, même quand des musulmans meurent, on se dit jamais, cette mort, elle va être un trésor pour les proches. On dit, ça va être dur, qu'Allah vous facilite, etc., etc. Mais on se dit pas, la mort de quelqu'un peut être un cadeau. Sauf si cette personne est un monstre. Mais jamais si cette personne, c'est une personne bien, tu vois.
Jamais.
Et vraiment,
jamais.
C'est tout le contraire. La mort de Khalti Najah, elle est un cadeau dans le sens où elle nous a offert tellement. Allah, il a repris son âme, mais d'une manière extraordinaire, il a fait que la mort de cette femme, c'est devenu quelque chose qui a changé la vie de beaucoup de gens. Ses enfants, son mari, mais nous aussi. Khalti Najah, moi, sans ce livre, je pense que j'aurais jamais entendu parler d'elle. Et pourtant, elle m'a bouleversée de manière, enfin, moi, ce livre, franchement, je le dis et je pèse mes mots, je suis très sincère, il a vraiment changé ma vie. Vraiment, vraiment.
Je voulais vraiment qu'on aille sur ce sujet-là, du fait du bouleversement de nos vies, parce qu'en fait, on peut se dire... en fait, les gens peuvent se dire, dis donc, c'est un peu fort, ou non, mais ouais, en fait, concrètement, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie au point qu'il t'ait bouleversé? Mais avant ça, on y reviendra vraiment, parce que je pense que c'est hyper important, et ça permet de passer sur du concret, parce que ben oui, on est des amoureux des lettres, on est des amoureux des livres, on est des amoureux des sentiments aussi parfois, mais vraiment, sincèrement, concrètement, ce livre, il a des actions. Subhanallah, c'est incroyable. Il peut créer des choses dans nos vies. Avant ça, j'aurais aimé qu'on lise chacune un de nos passages préférés et qu'on explique pourquoi il nous a tant touchés ou pourquoi il est symbolique dans le livre dont on est en train de parler.
Avec plaisir. Alors, Najia, je suis satisfaite de toi. Je peux témoigner que tu as été une femme pieuse. Tu as fait le bien autour de toi. Tu as été la cause de beaucoup de khair. Tu sens la rahma d'Allah. Allah t'aime et il descend sur toi sa rahma et sa sakina. À partir d'aujourd'hui, beaucoup de belles choses t'attendent. Tu vas enfin goûter au repos. Tu as été purifiée de tes péchés, élevée en degré pour ta patience durant cette épreuve. Bientôt, tu te reposeras enfin. On se retrouvera au paradis. On se retrouvera au paradis, Inch'Allah.
Les frissons là, c'est normal ou pas?
Personnellement, je te dis vraiment, je retiens grave mon émotion. C'est...
Ouais, je suis très émouvante.
C'est bouleversant. C'est ouais. Bouleversant. C'est...
Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te bouleverse en fait dans les propos? Alors tu peux redonner un peu le contexte? Qui donne ces ouais. paroles-là? On peut un peu comprendre, hein, mais ouais. explique-nous un peu.
C'est le père d'Oumaïma qui dit ça à Khalid Najia vraiment très très peu de temps avant son décès. Moi en fait, déjà le premier truc qui m'a vraiment cette phrase, je suis satisfaite de toi. Je sais pas en fait si on se rend compte à quel point c'est difficile pour les humains d'être satisfaits des autres. C'est tellement difficile pour nous. On est toujours là, ouais, t'as fait ci, ouais, t'as fait ça. Là, c'est une femme qui meurt. Elle est très jeune, Khalid Najia, quand elle meurt. Elle a la cinquantaine. Ouais, elle a 8 enfants, Khalid Najia. Ouais, mashallah, elle a 8 enfants. C'est un homme qui va devoir, qui pourrait très bien dire, qui pourrait être dans le reproche. Il y a tellement d'hommes qui sont un peu dans ce genre de comportement. Et dans la mort de sa femme, la chose qu'il fait, c'est qu'il la rassure. Il témoigne, enfin je trouve ça tellement beau de se dire je témoignerai pour dire que tu as été une femme pieuse auprès de qui? Auprès d'Allah.
Auprès d'Allah.
C'est incroyable. En tant que femme, je n'ai qu'espoir que mon futur époux dise ça un jour de ma propre personne. C'est incroyable. Et quand il lui dit à partir de maintenant, il y a tellement de belles choses qui t'attendent, en fait je trouve ça tellement beau parce que. On a tellement peur de la mort. Tu vois, on voit ça comme quelque chose de très austère, d'hostile, tu vois. La mort, c'est hostile, ça va nous faire du mal, etc.
Puis c'est contre nous, quoi. C'est un mal qui arrive et c'est contre nous.
Complètement contre nous. Là, mashallah, on voit la mort de manière... C'est l'inverse. C'est pour nous. C'est pour nous. On nous enlève au meilleur moment. Khadija, inshallah, elle est aimée d'Allah. Quand il lui fait ça, c'est un acte d'amour pour elle. C'est un acte de rahma, de prendre son âme maintenant et pas plus tard. Et je me dis, c'est vraiment ce passage, à chaque fois que je le lis, et que je ne suis pas en train de le lire à voix haute sur un podcast, mais je pleure. Mais quand je te dis je pleure, de toute façon, moi, c'est simple. Toute la première partie du livre, jusqu'à la mort de Khalid Najia, je pleure non-stop. C'est que je n'arrête pas de pleurer. Ah non, mais je pleure, je pleure, je pleure, tellement je suis dans une émotion qui est tellement forte et tellement, en fait... Parce qu'à travers ce livre, moi, ce que je vois, c'est l'amour que Allah, il nous porte. C'est ça, en fait. Il y a deux lectures. Il y a la vie de Najia, etc., mashallah. Mais il y a surtout comment Allah, il aime ces créatures qui font de maigres efforts, en fait. Parce que nous, qu'est-ce que c'est ? Khalid Najia, subhanallah, elle a une vie extraordinaire, mashallah. Elle a fait énormément de bonnes œuvres. Mais nos œuvres, c'est des œuvres d'humains face à Allah, qui est le Seigneur de l'univers. Donc, c'est toujours des choses minuscules, en vrai. Et en plus, tout ce qu'on peut faire, on peut faire que parce que Allah, il nous permet de le faire.
Tout à fait.
Et je me dis... Allah, il a donné dans un... alors vraiment, mettez des gros guillemets, comprenez que c'est vraiment une métaphore. Il a donné l'éternité à sa créature. Mm-hmm. Parce qu'il lui a permis une œuvre, avec ce livre, où Meima, elle fait une sadaqa jariya pour sa mère. Mm-hmm. C'est extraordinaire. À chaque fois que... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu ce livre sans faire une prière sur Khalid Najia. Au moins une seule.
Ouais. Juste pour rappeler aux personnes qui ne savent pas ce que c'est une sadaqa jariya, c'est une sadaqa qui perdure. Après toi, en fait, une sadaqa, on va appeler ça, je ne sais pas, un don.
C'est une aumône, ouais, c'est
une aumône qui perdure bien après toi. Ça peut être un puits, par exemple, et donc à chaque fois que les personnes viendront boire dans ce puits-là où ils vont chercher l'eau, eh bien, tu seras récompensé. Et ça, potentiellement, ça peut durer des centaines et des centaines d'années. Et c'est vraiment le cas pour Khalid Najia. Et tu sais, j'écoutais l'épisode qu'a sorti Oumaïma quand son livre est sorti, et elle expliquait qu'en fait, ce livre. elle l'a fait dans un premier temps pour faire une dharma lila, c'est-à-dire que pour vraiment prêcher la bonne parole et l'existence d'Allah auprès des autres. Et la deuxième chose, c'était pour que les aumônes de sa mère continuent de perdurer à travers son livre. Et je me suis dit, bah, mission accomplie, franchement, pour le coup. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et juste par rapport à ce que tu disais, quand le mari de Raltinajia lui dit qu'il est satisfait d'elle, alors je ne sais pas si c'est un hadith qui est authentique ou non, mais il me semble que dans un hadith, c'est expliqué que la femme qui fera ses prières, qui accomplira son jeûne, et qui en gros, alors il y en a qui disent obéira à son mari, mais il y en a qui disent bah, justement qui déclenchera la satisfaction de son mari, le paradis lui est grand ouvert. Et moi, c'est en ça aussi que ça m'a beaucoup émue, parce que je me suis dit, il sait que là, il est en train d'ouvrir la porte, en fait. Parce que, on ne sait pas hein, si nos jeûnes vont être acceptés, si nos prières vont être acceptées, mais en tout cas, il sait que ce qu'il est en train de dire là, ça aidera son épouse. Et ça, c'est quand même magnifique. Ça, c'est trop beau.
C'est l'amour en Allah. C'est quand c'est pas l'un pour l'autre juste parce que t'es mignon, t'es mignonne, t'as fait ça pour moi. C'est parce que je t'aime, parce que je t'aime en Allah.
Oui, je veux vraiment ton bien et je veux qu'Allah t'aime, en fait. Parce que l'amour filial, c'est un amour, encore une fois, qui est triangulaire, quoi. C'est toi, moi et Allah. Et j'inclus Allah dans cet amour-là parce que je sais que ça ne pourra te faire que du bien. Et je trouve ça vraiment trop, 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 trop beau. Moi, j'ai choisi un passage qui est bien plus tôt dans l'histoire. C'est justement quand Raltinajia, elle est en plein burn-out parental. Et alors, Eline et moi, on n'a pas d'enfant, mais alors, on a ressenti ça dans notre chair. On est d'accord?
Vraiment?
Franchement,
je suis fatiguée avec elle.
Oui, mais ça allait être mon expression. J'étais fatiguée avec elle. Et encore une fois, tu vois, moi, j'ai une amie qui m'a dit, au niveau de la plume, j'ai pas été trop, trop transportée. Moi, en le relisant une deuxième fois, parce que quand elle m'a dit ça, je crois que je voulais de le terminer. Je lui avais dit, non, moi, franchement, ça m'avait beaucoup touchée, ça m'avait plu. Et en le relisant dans le cadre de notre conversation, je me suis dit, ah mais non, moi je suis désolée, cette plume elle est forte parce que moi je suis fatiguée. Là je ferme le livre, j'ai envie de siester, tu vois ou pas?
Mais tu ressens trop bien les émotions. Ouais. Toi aussi t'as l'impression qu'il y a 8 gosses là qui veulent vraiment jamais t'écouter. Ouais,
complètement, exactement. Alors qu'on n'en a même pas un seul, mais on a senti cette fatigue, cette souffrance. Et donc on a ce moment-là du livre où elle est assez épuisée. Elle est au bout du rouleau et elle dit à son amie, j'en peux plus, ma vie, c'est pas du tout ce que j'espérais. Je suis très déçue, mes enfants m'écoutent pas et parfois j'ai des idées vraiment très sombres. Et franchement, ça m'a touchée parce qu'en fait, je sais qu'il y a des mamans qui ressentent ça. Ce truc de j'aimerais partir à l'île Maurice ou à l'île de Ré selon son budget, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer en tout cas partir et j'ai envie de tout laisser derrière moi. Et ce truc aussi de j'ai des idées sombres, franchement il y en a très peu qui vont l'admettre, qui vont le reconnaître parce que ça peut être difficile, mais des mamans qui ressentent ça, il y en a beaucoup. Et elle le dit, elle le signifie et elle explique ça à son amie Camélia, et son amie lui répond quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Elle lui répond, Simlé, Najia, Allah est avec toi. Aussi dur que soit ton quotidien, Allah t'a donné toutes les capacités pour le gérer. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah connaît ta douleur et il te récompense pour ta patience. Ce que tu fais n'est pas vain. Je crois que ce qui te rend malheureuse, c'est que tu désires que ta vie ressemble à celle dont tu rêvais dans ta jeunesse. Tu t'accroches à cette vie idéale. Tu la compares sans cesse à ton quotidien et tu es déçue. Et si tu lâchais prise et apprenais à être heureuse aujourd'hui, à être heureuse même si tout n'est pas parfait, à accepter ce qui ne va pas et à placer ta confiance en Allah. Pense aussi un peu à toi. Fais-toi du bien. Je te vois te sacrifier pour ta famille. Mais c'est important que tu prennes du temps pour toi, Najia. Ton bonheur est sous ta responsabilité, pas celle de ton entourage. Tu vois, je le relis et ça me touche encore parce que, en fait, moi, ce livre, en fait, c'est un livre pour toutes les personnes qui ne sont pas encore des Najias, pour ces personnes qui ne sont pas encore arrivées où l'âme nous est reprise avec douceur. C'est pour les femmes comme nous qui essayons de faire de notre mieux, mais qui parfois galèrent, qui parfois perdent espoir, perdre confiance. Et moi, ce passage, je l'aime parce que, en fait, cette amie lui fait voir un peu la lumière alors qu'elle est dans un tunnel super sombre. Et encore une fois, nous, on est dans ce tunnel la plupart du temps. Enfin, quand je dis la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à un moment de nos vies. Enfin, moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Je ne suis pas arrivée à un moment de ma vie où je me dis, alors là, si mon âme est reprise demain, alors là, j'ai fini. Je suis au top. On est d'accord. Et donc, moi, j'ai aimé ce passage-là parce que, encore une fois, c'est la vraie vie. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est ce que je disais en introduction. Moi, j'ai aimé ce passage parce que je me suis jamais sentie aussi proche de Khaled Tinejak à ce moment-là. Là, je me suis dit, tu vois, c'est, je la comprends, je comprends sa souffrance et je comprends sa tristesse. Et je bois les paroles de Camilla comme elle boit, elle boit les paroles de son amie. Et je remercie Allah pour ces paroles-là parce que c'est des paroles qui font beaucoup de bien. Et l'autre chose que j'aime dans ce passage-là, c'est qu'en fait, pour moi, il y a un parallèle qui est hyper intéressant là, en fait, entre Umayma et sa maman. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, son amie Camilla lui dit « Fais le deuil de ta vie d'avant ». Et en fait, elle, c'est la difficulté, enfin, ou plutôt la lumière vient après le deuil. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que fait Umayma ? Est-ce que ce n'est pas exactement ce qui lui arrive ?
Bien sûr, mais j'y avais jamais pensé en plus. Hein. Mais c'est exactement
moi, c'est en le relisant, en fait. C'est en le relisant, je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'en fait, c'est l'histoire de deux deuils. Parce que c'est grâce au deuil de sa vie d'avant qu'elle fait que nous, on rencontre Altinagia, en fait. Tout par-delà. Sa vie, elle change après ça, en fait. Et nous, notre vie, elle change une fois qu'Umayma, elle perd sa maman aussi.
C'est vrai, tu vois, j'avais jamais pensé.
Ben, tu vois, moi, ça m'avait vraiment... ouais, ça m'a vraiment beaucoup touchée et... Et encore une fois, j'insiste sur le fait que Khaled Tinejak, avant d'être cette personne dont l'âme a été reprise avec douceur, c'est une femme comme vous et moi. Et je trouve que c'est toujours important de le préciser parce que je sais que parfois, les sœurs, quand elles lisent des livres comme ceux-là, elles peuvent se dire « Oui, mais ça, c'est pas moi. Moi, j'y arriverai pas. Oui, mais moi, je suis pas comme ça. » Alors qu'en fait, elle l'était pas non plus. Et par la grâce d'Allah, elle a pu cheminer vers son créateur, en fait.
C'est ça. Et puis, en plus, il n'y a pas qu'une seule forme, au final, de... Tu vois, Khaled Tinejak, sa daroua, par exemple, elle l'a fait très vocalement, parce que c'était une femme qui était extravertie, c'était une femme qui avait une facilité à aller vers les autres, etc. Elle avait aussi assez de science pour pouvoir aller faire une daroua qui était vraiment active, dans le sens où elle donnait des cours, etc. Je me souviens, Umayma avait fait un épisode de podcast sur sa tante, qui est elle aussi morte d'une maladie du ventre.
Complètement, je l'ai écouté. Je t'écoute, j'ai adoré cet épisode.
Ah, mais en plus, je me souviens très bien, je l'écoutais et j'ai encore l'image où je me suis dit, c'est incroyable. Umayma elle-même, elle se disait, je ne sais pas comment ça se fait, pourquoi Allah il a gardé le statut de martyr à ma tante, parce que contrairement à ma mère, elle faisait pas une daroua de ouf, etc. Et en fait, elle dit, j'ai découvert pourquoi en fait. Ma tante, pas une seule fois, elle s'est énervée contre mon oncle. Elle a toujours essayé d'apaiser un maximum son foyer, d'être une source d'apaisement, etc., etc., etc. Et ça se trouve, en fait, nous, on ne fera pas... moi, par exemple, je sais que je ne voudrais pas ce que Khaled Tinejak, elle a fait. Je ne voudrais pas pour moi, parce que moi, je connais mon âme. C'est trop dangereux pour moi. C'est trop, trop, trop dangereux pour moi. En plus, franchement, il faut le dire, moi, je ne suis pas hyper extravertie. J'ai l'air comme ça, mais c'est parce que...
Ah bon?
On est deux, il y a un écran qui nous sépare. avec les gens que je connais pas, je suis plutôt très froide et je regarde mal, donc vraiment c'est pas ma capacité. Mais je me suis dit, en fait, on peut, ça se trouve, nous, notre ce qui va nous
notre
permettre
neuf,
d'avoir, c'est ça, moi, ça va être encore autre chose, dans le sens où peut-être que Allah il va nous faciliter une bonne œuvre, ou en tout cas il va reprendre notre âme d'une manière magnifique, mais pas parce qu'on aura fait des actes qui sont hyper visibles, mais parce que par exemple on aura fait un djihad en-nefs, t'as peur. Un truc, on s'est travaillé au corps, incroyable.
C'est exactement ça.
Ça peut être autre chose, tu vois. Mais c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir que le même parcours que Khaled Tinejak. On peut avoir le parcours que Allah, il a décrété pour nous, avec notre personnalité.
Oui, enfin, alors, franchement, c'est fou parce que j'allais le dire en conclusion, mais je vais le dire tout de suite. En fait, Khaled Tinejak, elle dit souvent à sa fille qu'il faut laisser une empreinte sur cette terre. Ouais. Laisse ton empreinte sur cette terre, laisse ton empreinte sur cette terre. Et en fait, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'une empreinte qui est laissée sur cette terre, qui est laissée dans nos cœurs également. Et c'est très beau, c'est très bien. Et il y a des personnes qui, Inch'Allah, pour eux, rentreront fil Jannah parce qu'ils ont laissé une empreinte dans le corps de beaucoup de gens. Ok.
Ouais.
Mais il y a des personnes comme la tante de la maman d'Oumeima qui, effectivement, va laisser une empreinte, entre guillemets, uniquement dans le cœur de son mari et de ses enfants, parce que ses enfants attestent aussi qu'ils ils ont jamais vu ses parents se disputer, que sa maman a toujours été, extrêmement facile à vivre pour chacun d'entre eux, mais particulièrement pour le papa. Mais en fait, il y a Cheikh Omar Souleyman, qui est donc un cheikh américain, qui fait des darwas les vendredis. Et une de ces darwas, c'était justement est-ce qu'on se souviendra de moi ? C'était ça le titre de la darwa. Et j'ai trouvé ça hyper beau, hyper intéressant, parce qu'en fait, il expliquait qu'il y a quelques semaines, ils ont perdu un grand prédicateur qui a créé un institut, il y a quelques semaines, d'une manière assez brutale, pardon. Et tout le monde, du coup, s'est mis, entre guillemets, à faire des vidéos en disant à quel point cette personne était exceptionnelle, à quel point il a laissé une empreinte dans leur vie. C'était très beau. Mais lui, il dit, attention, attention, le but, c'est de laisser une empreinte auprès d'Allah. C'est ça le but. C'est ça le goal. C'est-à-dire que si tu laisses une empreinte dans le cœur de beaucoup de gens, et que ça satisfait ton Seigneur, alhamdoulilah, c'est peut-être ta voix, comme tu l'as très bien dit. Mais le goal, en fait, il ne faut pas refermer ce livre en disant, moi aussi, il faut que les gens aient envie d'écrire un livre à mon sujet.
Ouais.
Ce n'est pas ça le goal. Ouais. Le goal, c'est de se dire, auprès d'Allah, je serai vraiment extrêmement récompensée. Et il donnait l'exemple de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, en fait, donc cette coiffeuse, et on ne connaît même pas son nom. Tu vois, c'est ça aussi qui est, c'est pour te dire, on ne connaît pas son nom. Et en fait, cette coiffeuse était donc en train de coiffer les cheveux de la fille de Pharaon. Et en fait, elle a fait tomber le peigne. Et je crois qu'elle a dit quelque chose comme « Bismillah ». Et donc la fille de Pharaon, elle dit « Tu parles de mon père ?» Elle lui dit « Ah non, je parle d'Allah, le créateur des cieux et de la terre. » Elle lui dit « Bah, je vais devoir te dénoncer à mon père parce que là, en fait, tu es en train de faire du polythéisme alors que tu sais très bien que mon père, c'est Dieu. » Voilà. Et donc, du coup, cette femme meurt dans des circonstances extrêmement difficiles. Et avant de mourir, Pharaon, dans son grand esprit de torture, lui impose de voir ses enfants jetés au feu. C'est terrible. Ouais, c'est vraiment difficile. Donc, c'est une grande épreuve. Donc, elle termine, mais son enfant lui parle et lui dit « T'inquiète pas, je sais que ça se passera bien et je sais qu'on se retrouvera. Donc, dépose-moi, on se retrouvera, Inch'Allah. » Et en fait, quand l'âme de cette coiffeuse est montée aux cieux, c'est l'une des plus belles senteurs qu'on ait jamais senties, en fait. Et tout le monde disait mais qui est cette âme ? Mais c'est magnifique, et cette âme. Et en fait, c'est l'âme de cette personne. C'est l'âme de cette personne. Alors, on ne dit pas qu'il faut jeter ses enfants au feu pour se faire aimer d'Allah. Hein. Ce n'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est de se dire que en fait, auprès d'Allah, cette personne-là, nous, on ne connaît pas son prénom, mais auprès d'Allah, elle a une place incroyable. Et j'ai vraiment trouvé cette roadmap très intéressante et je me suis dit qu'il fallait quand même aussi qu'on parle de ça quand on parlerait de ce livre-là, parce que ça permet vraiment de contrebalancer. Donc, je te remercie vraiment d'avoir donné l'exemple de la tante de la maman d'Oumeima, parce que c'est très précieux comme témoignage, je trouve.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et puis, en plus, je pense qu'on peut très vite, parfois, peut-être tomber dans ce genre de pensée. C'est naturel, en fait, on se dit on veut faire pareil.
Complètement.
C'est naturel.
Complètement.
On est assez convaincu par le fait que Khaltin Agia, elle a très bien mené sa vie, alhamdoulilah. Donc on se dit je veux copier, je veux faire pareil, c'est normal. Sauf que la réalité, c'est que peut-être que Khaltin Agia, la beauté de son cheminement n'aurait pas été pareil si elle avait eu un cheminement qui était en essayant de faire comme quelqu'un d'autre, vu qu'elle avait, on imagine, hein. Mais parce qu'elle s'est dit, ok, lui il a fait des bonnes choses, je vais faire pareil. Elle avait une personnalité. Enfin, Allah, il nous a accordé notre personnalité en sachant très bien qui on était. C'est-à-dire que moi, par exemple, peut-être que moi, je suis vraiment hyper mauvaise pour faire des rappels aux gens, mais que je serais très bonne pour apprendre, l'arabe. Peut-être que quelqu'un d'autre, et sa bonne œuvre, c'est une personne qui va dire tous les jours de ma vie, je vais venir faire le ménage à la mosquée. Personne ne saura qui je suis. Je viendrai toujours à des heures où personne ne me verra, parce que Allah, il m'a donné une facilité à faire cet acte-là, mais personne ne me connaît, personne ne m'a entendu, réciter, j'ai jamais fait de rappel ou quoi que ce soit. Moi, ma bonne œuvre, ça va être ça. On peut tous porter quelque chose, tu vois. Et Allah, il nous a donné la capacité de faire ça, il faut juste qu'on sache que c'est.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Je voulais te poser je voulais avoir ton avis, justement, concret sur un point. C'est le côté du bouleversement. On en a parlé un petit peu avant. On s'est dit que ce livre, il nous avait bouleversés. Et encore une fois, j'ai vraiment envie qu'on aille plus loin et qu'on dise en quoi ça nous a bouleversés et concrètement, quel bouleversement on a opéré dans nos vies, si bouleversement il y a eu.
Ouais. Je pense qu'il y a eu, tu vois, pas un bouleversement, mais un changement dans le quotidien et un bouleversement de manière globale. Le changement dans le quotidien, c'est tout ce que la deuxième partie du livre m'a apporté. Et la deuxième partie, c'est après la mort de Khalti Najah et surtout la mise en place de ce que Umeyma a appelé le Miracle Fajr Routine. Moi, je n'ai jamais fait comme Umeyma le conseille. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai implanté une lecture du Qur'an tous les matins après Fajr dans ma routine. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire en continu. Je vais le faire très bien pendant 2-3 mois. Je vais avoir un coup de fatigue. Et après Fajr, je vais essayer vite, le plus rapidement possible de me recoucher. Mais alhamdoulilah, dans les moments où je le fais, je vous jure, mais je ne sais même pas à quel point je peux expliquer ce que ça me fait d'être aussi proche du livre d'Allah. C'est ça, je pense que si j'avais pas lu ce livre, peut-être que j'aurais jamais entendu parler en fait du fait de placer un gros de sa spiritualité à un moment aussi clé de la journée, qui est à l'aube quand tout le monde est encore en train de dormir, quand t'es vraiment seul avec Allah. Ça, ce changement là, c'est un peu l'exemple, tu vois, de la goutte d'eau sur la pierre. Si une goutte d'eau, ça va pas faire un trou dans la pierre, mais goutte par goutte par goutte, ça va commencer à creuser la pierre. Ben, c'est exactement pareil. Tu lis le Coran une fois, pour les gens qui savent pas, moi je suis pas musulmane depuis très longtemps, ça fait que 2 ans. Donc ça se trouve des choses qui sont très évidentes pour tout le monde, ce n'est que des petites découvertes pour la petite enfant musulmane que je suis. Donc vraiment c'était, tu vois, je lisais le Coran et puis je le découvrais aussi en même temps. Parce que ma première lecture du Coran, mine de rien, ça a été avec, en mettant en place cette routine-là. Donc il y a eu ce changement et plus tu côtoies le Coran, il est comme un ami. Plus tu passes de temps avec lui, plus il te dévoile ses secrets. C'est ça le truc, tu vois. Donc je le lisais plus et je me rends compte encore aujourd'hui. Je me disais, ça, c'est vrai que tu n'y avais pas pensé, Eline, il faut que tu le fasses. Et ça me fait. Et ma vision du Qur'an, surtout ma vision d'Allah, elle change. Plus tu lis le Qur'an, plus tu commences à comprendre. Moi, j'avais une vision catastrophique quand j'ai commencé à cheminer vers l'islam. Aujourd'hui, quand je lis le Qur'an, vraiment, je comprends tellement quand Allah dit c'est une miséricorde pour les croyants. Vraiment, cette phrase, c'est simple. De toute façon, si les gens ils comprenaient le Coran, les non-musulmans, ça, ils se diraient c'est sûr que c'est Dieu qui l'a écrit. Parce que c'est tellement la réalité. Le Qur'an, c'est une miséricorde pour les croyants. Et donc, il y a ce petit, c'est quand même difficile de tous les matins de faire, mais il y a ce changement du quotidien, et puis il y a le bouleversement global, où en fait, j'ai fermé ce livre, et je me suis dit, en fait, j'ai compris, je pense, au plus profond de mon âme, il y a quelque chose un peu, tu vois, qui s'est, on dit settle en anglais, tu vois, ça s'est posé. Ça s'est posé, et je me suis dit, Eline, plus que jamais, il faut que tu réussisses ta mort. Il faut vraiment que tu réussisses ta mort. En fait, c'est comme si ça m'avait retiré toutes les... Un peu, il y a beaucoup de carcans de la société, notamment plus avec les femmes, là, ils veulent absolument qu'on soit hyper carriériste et tout maintenant, où en fait, j'ai déposé tout ça. J'ai déposé cette image de la carrière. J'ai déposé cette image de la réussite. Franchement, tous ces trucs-là, j'ai grave déposé et je me suis dit, en fait, tout ça, ça compte pas si après tu meurs mal. Ça ne compte pas. Et en fait, et ça a été hyper doux, tu vois, parce que moi, j'ai lu le livre il y a pile un an. Et en fait, j'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce que tu peux faire ? Et ce n'était pas juste quel péché tu peux abandonner, c'est vraiment comment tu peux changer ta vie. Et moi, le premier truc qui s'est passé, c'est que moi, je finis de lire Ton dernier regard, je commence un nouveau boulot où je me retrouve dans une situation où pour la prière, c'est hyper compliqué. Dès la première visite des locaux, je me rends compte que je peux prier nulle part. Vraiment, franchement, je vous le dis, j'ai tout essayé. Impossible.
On te croit.
J'ai fait les causes, impossible de prier. Je suis partie voir les RH. On m'a mis des stops. Toutes mes prières, je demandais ça à Allah. Tout le temps, je veux juste faire ma prière à l'heure. Je demande juste la prière.
Tu es partie voir les RH pour leur demander clairement
je parle français. Ah non, j'ai pas dit j'aimerais bien avoir une petite salle pour m'isoler. Non. J'ai dit j'ai besoin d'une salle pour prier. J'ai tout fait, j'ai essayé toutes les causes, j'ai essayé de changer mon rôle dans la boîte, etc. J'ai tout tenté, ça ne l'a pas fait. Et en fait, j'ai eu le Covid. Et en fait, pendant une semaine ou deux, je me suis rendu compte où je pouvais être à la maison et prier à l'heure. Quand j'ai eu ce truc-là, je me suis dit, c'est fini. ils me feront plus rattraper une seule prière. Et en fait, là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier où on peut être à l'aise, où ma religion, c'est plus un truc que je dois fermer ma bouche tout le temps, je dois entendre les gens dire n'importe quoi dans les open space, je peux rien dire, je suis en entreprise, il faut que je fasse bonne figure. Et en fait, là, j'ai commencé à réfléchir. Moi, j'ai toujours aimé les enfants. J'ai toujours eu une patience de ouf avec les enfants. Quand tout le monde est en train de pleurer, ouais, c'est bon, il y a des enfants qui chialent dans le train, on n'en peut plus, on n'arrive plus à dormir, nanana. Moi, j'en ai rien à faire. Vraiment, je dis, ça me passe au-dessus. Je me dis, bah oui, c'est un enfant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, tu vois. Et en plus, à la base, bon, enfin, bref, je suis en train de raconter ma vie. Mais bref, j'étais en train, tu vois, je me suis posé la question de comment je pouvais modifier mon travail pour que mon travail puisse me permettre d'arriver vers une mort qui est, alhamdoulilah, belle. Et donc, c'est là où je me suis dit, ok, on va changer complètement le métier. Complètement le métier. Alors, j'étais commerciale. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, je vais devenir professeure d'arabe. Donc, on est vraiment sur des choses.
Deux salles, deux ambiances pour le coup.
Ah, vraiment. C'est Startup Nation, mosquée. On est vraiment pas sur la même chose. Ah non, c'est vraiment pas la même chose.
Et du coup, ça a été, naturel de prendre cette décision en se disant, avec le recul, avec ce livre. Enfin, tu penses que ce livre, il t'a aidé à prendre une décision qui était compliquée, ou justement le fait d'avoir lu le livre t'a permis d'arriver vers cette décision de manière assez apaisée au final?
En fait, les deux se sont produits. C'est-à-dire que je suis, en fait, vu que c'est un cheminement, tu vois, ça a pris son temps pour venir s'implanter dans ma tête. Et en même temps, en lisant ce livre, en fait, ça m'a facilité le fait de voir que Allah, il facilite vraiment ses créatures.
Ses serviteurs.
Quand tu agis pour lui, il va te donner toujours la meilleure des finalités. Et donc, en fait, j'avais confiance. Quand j'ai pris ma décision, j'étais vraiment en confiance. Je me disais, quoi qu'il arrive, ça se trouve, je ne serai jamais prof d'arabe. Ça se trouve, tu vois, moi, c'est mon intention aujourd'hui, mais Allah, il va me diriger vers autre chose. Mais en tout cas, ça m'a facilité le fait de faire un choix décisif dans ma vie, vraiment un choix qui change ta vie pour Allah. Ça a été grave facile. Franchement, je le dis, ça a été vraiment, vraiment, vraiment facile. Et pourtant, qui dit converti dit des parents qui sont vraiment pas d'accord avec moi. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça, dit un confort de vie que t'as plus. Mais alhamdoulilah, c'était facile. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me disais vraiment, j'avais vraiment l'image en tête, je me disais, je veux mourir comme Khalti Naja. Je veux mourir avec mon âme. J'imaginais, tu vois, quand tu... l'exemple n'est pas ouf, mais tu vois, quand tu fais de la viande, elle est hyper tendre. Là, c'est... Il sort d'un coup. Là, c'est ça, pareil. Je veux vraiment mon âme, elle sort facile de mon corps. C'est la facilité. Il n'y a pas de je vais me retenir. Ah, alhamdoulilah, c'est fini la vie pour faire. Vraiment, c'est ça le truc que j'ai envie de me dire, tu vois.
C'est ça l'objectif. C'est trop beau, franchement, c'est vraiment très très beau parce que, oui, on est vraiment en train de se dire là qu'en fait, ce livre, il a des conséquences, franchement. Moi, me concernant, je sais que avant de lire ce livre, j'avais déjà envie de faire le Halal Love Podcast. Ça fait des années que j'y pense, des années que je me dis que quand même, ce serait important. Mais je crois que le fait de ne pas être mariée, je me disais, ouais, mais bon, peut-être un peu relou. Peut-être qu'en interviewant des personnes qui sont mariées, ça va faire naître du hasad en moi, une forme de jalousie, une forme de... Mais en lisant ce livre, je me suis dit, mais en fait, on arrête de se poser des questions, en fait. On va le faire. Je vais le faire parce qu'en fait, je savais que c'était là, je savais que ça allait venir, mais c'est passé de ça va venir à non, je vais le faire maintenant. Là, par contre, c'est fini. On va le faire tout de suite. C'est fondamental parce que, en fait, se dire que potentiellement, le plus gros de tes journées, c'est de faire des choses qui t'aident à cheminer vers Allah. C'est un goal, quoi. Ouais, c'est un goal parce que, enfin, on vient d'études où... moi, j'ai fait mes études en com. J'ai bossé en événementiel. J'ai bossé dans des choses où la religion n'était pas présente. Et tu vois, tu disais que c'est dur d'être dans un boulot où on te demande de pas trop le dire et un peu de te taire, en fait. Mais moi, je trouve que pire que ça, en fait... Moi, quand j'allais dans ces boulots-là, en fait, j'avais l'impression de devoir retirer, je ne sais pas moi, mon bras et leur dire, alors, dans la vraie vie, tout le monde a un seul bras, donc si on me voit avec deux, ça ne va pas le faire, donc on se revoit en fin de journée. Mais ce n'est pas ça, la vie, en fait. Tu ne peux pas déposer ton bras et venir le récupérer, et l'islam, c'est pareil. Tu ne peux pas te dire, alors là, pendant 10 heures de ma vie, parce que c'est ça quand on vit à Paris et c'est ça quand on fait des boulots prenants, pendant 10 heures de ma vie, Allah n'est pas là.
Ouais.
Et je récupère ma foi, ma casquette de musulmane à 20h30, après le JT de 20h. Quoi. Ouais. C'est pas possible. Et je trouve que ces ouvrages-là te permettent vraiment de te dire on n'a qu'une seule vie. Tu vois ce truc de YOLO là, on les lit once.
Ouais, c'est
vrai. C'est vraiment ça. Mais par contre, c'est poussé à l'autre extrême. C'est parce qu'on n'a qu'une vie, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Dans l'autre, c'est parce qu'on a une vie, on peut faire n'importe quoi, c'est pas grave. Là, c'est non, on n'a qu'une vie. Et parce qu'on n'a qu'une vie, parce que ce sera notre seul shot qui nous permettra, Inch'Allah, d'entrer au paradis, c'est précieux. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc franchement, vraiment, les amis, pour ceux qui hésitent, pour ceux qui pensent que parfois c'est juste on est bouleversé et puis après on ferme le livre et c'est fini. Non, c'est un livre qui nous suit, c'est un livre qui peut aider dans certaines de nos décisions. Et bah, moi, tout comme toi, je me suis dit, mais enfin, je me pose la question plus souvent de là, demain, si ton âme elle est reprise, si dans une heure ton âme elle est reprise, est-ce que tu serais satisfaite? Malheureusement, la réponse est non, hein, pour ma part en tout cas. Mais ça me force à... Je reste pas juste dans le non. Je me dis, ok, qu'est-ce que tu peux faire mieux du coup?
Qu'est-ce que
tu peux faire mieux pour pas être dans le non? C'est pas quelque chose que je me dis tous les jours, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient plus souvent dans ma vie. Et j'espère que c'est quelque chose qui viendra, on passera de plus souvent à tout le temps, tu vois.
Ouais.
À me dire, ouais, mais là, tu vois, t'es en train de parler de quelqu'un. Si tu meurs là, c'est chaud ou c'est pas chaud? Tu vois? Et je trouve que ce livre-là, il te permet vraiment ça. Et en plus, je trouve que c'est fait vraiment avec beaucoup de délicatesse et de poésie. En fait, je dis ça parce qu'en fait, je trouve que c'est quand même très, très dur de trouver des livres écrits en français où on te parle de religion avec une plume, tu vois.
Oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi.
Tu vois, c'est quand même très factuel, c'est quand même très... parfois même, c'est... Franchement, moi, parfois, en tout cas, ça m'agresse. Alors, c'est peut-être personnel, hein. Mais parfois, il y a des écrits, moi, qui me heurtent. Il y a des choix de mots qui me heurtent. Et c'est dur d'aller au-delà de tout ça pour se dire, Madina, rappelle-toi, concentre-toi sur le message, concentre-toi sur ce que ça va t'apporter dans ta foi. Et ce livre-là, comme il combine les deux, c'est un livre que ton cœur, il chérit vraiment beaucoup, je trouve.
Et puis, je pense que, tu vois, c'est aussi c'est parce que c'est peut-être la forme de rappel qui fonctionne pour nous, tu vois.
Oui. Oui, tout à fait.
Je pense qu'il y a des gens, tu vois, on en parlait il y a longtemps avec deux de mes amies, où elle disait, tu vois, moi, il faut qu'on me crie dessus. Tu vois, on parlait un peu des différents prédicateurs
ouais,
et tout
ouais,
ça.
C'est vrai, tout à fait.
Elle met trop, il y a un prédicateur anglais, et je vous jure,
c'est Mohamed Roblos.
Je sais, peut-être que c'est lui, je le connais pas. Mais moi, j'avoue, je peux plus me concentrer parce que je trouve trop drôle. En fait, je suis là, genre, tu vas casser le bardeau là, mon frère, c'est pas possible. Et elle
aime. Je pense
trop.
Que c'est lui.
Et elle aime trop. Elle dit, je te jure, moi, ça me prend, je l'entends, je comprends, j'agis. Moi, pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas ce qui marche sur moi. Moi, j'ai besoin que... Moi, c'est pas à travers... Ma crainte, elle me fait grave, c'est elle qui me force à me réveiller le matin, vous inquiétez pas pour faire comme nous tous.
J'ai de la crainte dans le cœur, comme tout le monde, ne vous en faites pas.
Mais le jour qui marche le plus sur moi, c'est quand je vois la rahma d'Allah et je me suis dit, et moi je me dis,
complètement.
Et moi, je suis même pas capable, mais lève-toi, va prier. C'est genre vraiment, c'est ça, tu vois, c'est essaye de te concentrer dans ta prière. Allah, il t'accorde de pouvoir prier. C'est vraiment, il t'accorde un truc de fou. Là, il y a tellement de ces créatures qui ne prient pas. Toi, rien que le fait de faire zol là, c'est un truc qui n'accorde pas à toutes ces créatures. Juste concentre-toi un petit peu. Ça, c'est sa générosité, c'est son amour pour toi. Et c'est là où je me dis, ok, Eliane, tu vois. Mais juste, tu vas aller en enfer, c'est pas ce qui marche le mieux sur moi. Et je pense que c'est pour ça, du coup, que ton dernier regard, ça marche bien. C'est qu'on n'est pas dans un délire, l'enfer. On est plus dans un truc où ta mort, c'est peut-être la porte du paradis que tu vas
faire, tu vois. Mais ça, et en plus, tu l'aperçois. Moi, franchement, comme je dis, pour moi, ce livre, c'est pas une lueur d'espoir, c'est une lumière d'espoir. Et tu as utilisé ce terme aussi au début de la conversation et je l'ai retenu. Enfin, tu vois, je me suis dit, c'est dingue parce qu'on s'est dit exactement la même chose. Et je pense que, moi, à titre personnel, je crois que la chose qui m'oppresse le plus, c'est l'obscurantisme. Tu vois, moi, j'ai l'impression, pour moi, l'obscurantisme, c'est quelqu'un qui me met dans le noir avec une couverture 100% opaque. Enfin, tu vois, je respire plus, je le vis super mal. Et moi, la lumière, c'est quelque chose qui m'attire naturellement et je trouve que c'est très important ce que tu as dit, à savoir que Allah, il nous a créés différents. Donc en fait, c'est pas cohérent de se faire croire qu'il n'y a qu'une seule manière de faire la da'wah qui marche. C'est pas possible. Il y a des gens, effectivement, quand tu leur cries dessus, ils disent, mais c'est ça, j'ai besoin d'entendre ça. Alors là, je suis trop, je me réveille et j'y vais. Moi, j'ai jamais aimé qu'on me crie dessus, en fait. Je n'ai jamais aimé ça. C'est pourquoi tu cries, tu vois. Ça m'angoisse, ça m'oppresse. Alors, parfois... Mais par contre, moi, je comprends que parfois, il faut y aller. Parce que parfois, on dort.
Oui,
franchement, parfois, on dort. Et la personne, elle nous secoue un petit peu. Et il faut arrêter. On va pas tout le temps te dire. Si ça fait 8 fois que j'essaye de te réveiller, la 9e fois, je comprends que tu y mettes un peu plus d'énergie. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Franchement, ça dépend vraiment du contexte. Mais d'une manière générale, tu peux me crier dessus tout le temps. Moi, ça va m'oppresser. En tout cas, moi, j'ai aimé ce livre parce que, mine de rien, on nous cache pas la difficulté. C'est pas une glamourisation de la mort.
Ouais, d'ouf.
C'est pas une glamourisation du deuil. C'est pas, on n'est pas en train de dire oh là là, la mort d'un proche, c'est super ou c'est facile. Non. Il y a des moments qui sont très difficiles par lesquels Oumaïma passe. Et l'un de mes autres passages préférés, c'est justement quand elle explique qu'elle a compris pourquoi chaque larme, chaque souffrance avait une raison. Mais quand même, il y a eu ces larmes-là, il y a eu ces souffrances-là. Et ça, il ne faut pas les nier. C'est important parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont le lire alors qu'elles ont perdu un proche et peut-être qu'elles vont y aller avec beaucoup d'entrain en ne sachant pas qu'il y a quand même beaucoup de souffrance. Khalti Najia, elle passe par des épreuves physiques très difficiles.
Hyper difficiles.
Et ça, Oumaïma, elle ne le cache pas. Et nous, on n'est pas là pour le cacher non plus. C'est juste, en fait, c'est juste pour offrir une ambivalence à la mort. La mort, c'est pas juste horrible. Les épreuves, c'est pas juste de la souffrance, mais par contre, il y a des souffrances dans l'épreuve.
C'est ça, exactement. Et c'est vrai, c'est ça que je trouve, ça qui fait que tu vois, aujourd'hui, Ton dernier regard, c'est l'un de mes livres préférés. Tout livre confondu, c'est vraiment l'un de mes livres préférés. C'est qu'il est très juste dans le sens où, comme tu l'as dit, Oumaïma, elle nous cache pas du tout la difficulté de la mort de sa mère. C'est-à-dire que, oui, sur le coup, Oumaïma, elle dit, c'est peut-être le plus beau jour de ma vie, mais c'est la suite de ça. C'est peut-être les pires jours de la vie de Oumaïma. Enfin, je veux dire, Oumaïma, machallah,
elle est capable
pour partager ses émotions. Moi, j'ai eu l'impression de perdre ma mère. C'est une réalité. C'est très difficile. Oumaïma, elle a eu la chance d'avoir. Elle s'est rendue compte, en tout cas, à quel point sa mère, elle avait un amour inconditionnel pour elle. Et à quel point, en fait, il n'y a que la mère qui arrive à t'aimer comme ça. Puisque t'as beau faire. Quasi, la moitié, même pas un tiers de ce que ta mère elle attend de toi, de ce que ta mère elle a besoin que tu fasses, ça change rien au niveau de l'amour qu'elle te porte. Et quand cet amour-là il t'est retiré, c'est hyper difficile parce que tu te rends compte à quel point les autres ils aiment sous condition un peu. Et à quel point elle, ça a été tellement difficile pour elle. Parce que t'as ton, t'as ton deuil à gérer, il y a une réalité. Oumaïma, elle venait tout juste d'être mère quand elle a perdu sa propre maman. C'est archi difficile. T'as un tout petit bébé en bas âge, elle n'était pas mariée depuis très longtemps non plus. Elle a, on rappelle, 7 frères et sœurs, c'est des choses difficiles.
Et c'est l'aînée, hein. Je ne sais pas si on l'a précisé, mais c'est l'aînée. Donc elle a d'ailleurs, elle le dit à un moment donné, et franchement, vraiment, j'ai une grande pensée pour les aînés, parce qu'à un moment donné, pardon, vraiment, je t'interromps deux secondes, mais elle le dit à un moment donné, tout le monde te dit en tant qu'aînée, il faut que tu sois fort pour tes frères et sœurs, c'est important, il faut que tu sois là pour ton père. Et elle dit, mais moi, je n'ai pas perdu ma mère, moi. Enfin, en gros, à un moment donné, moi aussi, j'ai perdu ma mère. Pour moi aussi, c'est difficile. Et franchement, j'avoue, j'envoie beaucoup d'amour là tout de suite. C'est pas prévu, mais j'envoie beaucoup d'amour aux aînés parce que je trouve que, franchement, toute votre vie, on vous met un sac à dos sur les épaules. Vraiment, qu'à ce moment-là, vous récompense des efforts que vous prodiguez parce que c'est assez incroyable ce qui vous est demandé sur cette terre.
C'est vrai. Et ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Franchement, elle passe par des très grosses souffrances au Maïma. Et ce qui est bien, et c'est justement, c'est qu'elle te montre la douleur, la vraie douleur, même malgré la foi, malgré tout, parce qu'il y en a, ils aiment trop dire, ouais, t'as juste à dire, alhamdoulilah, ça y est, tes problèmes sont passés. Non.
Je ne crois pas. En tout cas, ou sinon, on n'a pas les mêmes problèmes, je ne sais pas.
vraiment, encore une fois, tu sais, genre, il y a des gens, je sais pas, ils aiment bien vivre, je sais pas, sur une sorte de bateau dans les airs, qui n'est pas la vie sur terre que nous, on mène. Parce que, tu sais, souvent, même les prophètes, ils ont souffert. Même le prophète, s'il y a bien des gens qui disent Alhamdoulilah avec une sincérité du cœur, c'est eux, Alayhoum Salam. Eux, ils souffraient. Eux-mêmes, ils disaient qu'ils souffraient. Mais nous, non. Nous, subhanallah, on dit juste Alhamdoulilah, ça y est, pansement, guérison, c'est fini.
C'est exactement
c'est
ça.
Un peu, avec l'épreuve et bien la facilité, genre, et là, à côté de l'épreuve et la facilité,
la facilité est déjà là.
C'est incroyable. Et bref, elle te montre, Oumaïma, qu'il y a énormément de douleur, mais elle te montre à quel point, quand tu recherches, parce que c'est une action qu'on doit mener, c'est une cause qu'on doit faire.
C'est un cheminement à faire, tout à fait, tout à fait.
Quand tu recherches la sagesse, quand tu recherches la face d'Allah dans cette épreuve, c'est beaucoup plus facile, en fait. C'est là que la facilité, elle vient aussi dans un sens. C'est que quand c'est difficile. Ta mère que t'aimes de tout ton cœur, tu la perds. Là, maintenant, à toi de te dire, il y a un bien là-dedans. Théoriquement, c'est très facile de le faire. Dans la pratique, c'est une douleur sans fin. C'est, c'est tellement difficile. Qui aujourd'hui va se dire, on ne s'est pas dit que Allah, il était injuste ? Qui ? Je pense que c'est naturel de se dire ça. Et elle fait un effort de ouf sur elle-même, mashallah. Et de cet effort, elle sort quelque chose qui est quand même le miracle de Fajr Routine. Et elle dit, sans la mort de ma mère, j'aurais jamais eu l'MFR.
Elle le dit, c'est vrai.
Et elle se dit, je remercie Allah. Je remercie Allah. Ce qui s'est passé, c'est un bien. En fait, le fait de dire, c'est pas juste un bien, c'est un mieux. C'est ça le truc qui est difficile. C'est de se dire, cette épreuve, je sais pas, demain, on me coupe la jambe. C'est pas un bien pour moi. C'est un mieux pour moi. C'est ça le mieux pour moi tout le temps. Et ça, c'est un acte qui est extrêmement difficile à faire. Et je trouve que c'est aussi une bonne leçon de voir comment ça s'opère chez Oumaïma et surtout aussi comment ça s'opère chez sa mère dans sa jeunesse parce que Khalti Najia, elle n'a pas toujours été la femme qui faisait énormément de rappels, qui était hyper engagée dans son village de femmes, etc., etc. C'est que avant d'arriver là où elle est, c'est très beau parce que les premiers chapitres, c'est un peu comment Khalti Najia, elle s'est perdue.
Exactement. Et comment elle s'est retrouvée.
Exactement.
Enfin, elle s'est retrouvée parce qu'avant elle s'est perdue. Enfin, tu vois, tu peux pas te retrouver si tu te perds pas avant, en fait, en réalité.
Exactement.
Et moi, je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, je le vois vraiment comme encore une fois une lumière d'espoir, que ce soit Khalti Najia ou que ce soit Oumaïma, parce que c'est pareil, elle s'est beaucoup perdue après la mort de sa maman, à juste titre, parce que vraiment ça a l'air d'être une souffrance très très difficile à gérer. Mais elle a vu le bout du tunnel. Mais encore une fois, même quand tu sors du tunnel, il fait bon, il fait chaud, mais il y a des moments où tu vas recevoir de la brise, il y a des moments où tu vas re-rentrer dans des tunnels. La vie, ce n'est jamais que ça. C'est pour ça que, tu vois, j'allais poser une dernière question où c'est un peu pourquoi, selon toi, les personnes, elles ont vraiment intérêt à avoir ton dernier regard dans leur bibliothèque. Ben, moi, c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est un livre un peu refuge.
Ouais,
moi, j'aime beaucoup ce terme. C'est un livre refuge, c'est un livre où tu, quand ça ne va pas, tu le relis et tu te dis alhamdoulilah, parce que quand même on n'a pas beaucoup parlé de ça parce que on voulait pas spoiler les gens, mais la mort de Khalti Najia quelques jours avant, quelques instants avant, quelques instants après, je dis ça pour vraiment pas spoiler. Pour moi c'est la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas juste quand j'ai des épreuves, c'est moi en tout cas, quand si demain j'ai des paroles de doute, si demain j'ai des west qui parlent beaucoup trop fort dans ma tête, on prend ce livre-là en fait et on se dit « Ah, mais oui, Allah il est là. » Et si Allah il est là, tout va.
Ouais, exactement. C'est vrai, hein. C'est très vrai. C'est que moi, j'ai vécu une station de foi après ce livre que j'ai pas revécu en un an. J'ai vécu des très beaux moments de foi. Mon ramadan, il était trop bien, j'ai vécu, j'ai pu vraiment vivre des bons moments de foi, mais la station de foi que j'ai atteinte grâce à ce livre, enfin par la cause de ce livre, vraiment, c'était incroyable parce que t'es plongé dans des miracles, c'est vraiment la réalité, tu es plongé dans des miracles, et c'est pas que dans la mort de Khalti Najia, c'est pendant tout le livre, il y a énormément de miracles qui s'opèrent. C'est juste qu'il faut avoir les yeux ouverts au bout d'un moment. C'est nous, des miracles dans notre propre vie, s'en passe tout le temps. Et je ne vous parle pas juste de on se réveille après le sommeil, on voit le soleil se coucher, nanana. Je vous parle de vrais miracles, des choses qui ne se passent pas toute la journée.
Ça arrive à nous personnellement, oui, tout à fait.
Exactement. Et ça te rend grave attentif. Mais c'est vrai que ce livre, moi en tout cas, personnellement, il m'a fait atteindre une station de foi de ouf, notamment grâce à ce genre de choses. C'est que je me suis dit, mais en fait, là, en fait, c'est comme si. Tu comprends mieux quand on te dit l'excellence, elle te permet de vivre comme si tu voyais Allah. Mm-hmm. Parce qu'en fait, tu vois, en fait, c'est dans... Tu sais que ce qui se passe, en tout cas ce qui arrive à Khalti Najia, ce n'est que parce que Allah, il a décidé de faire autre chose que ce qui se passe d'habitude. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas normal. C'est vraiment, c'est le seul truc. Ce n'est pas normal ce qui lui arrive. Ce n'est pas comme ça que les gens meurent.
Enfin, franchement, mais on pourrait presque s'arrêter là-dessus, c'est vraiment ça. Ce qui lui arrive, c'est pas normal. Mais en même temps, c'est parce qu'elle a fait plus que des choses classiques dans sa vie. Enfin, c'est par la grâce d'Allah, bien évidemment.
Bien sûr, bien entendu.
Mais c'est vraiment les efforts qu'elle a fournis dans sa vie ont permis qu'il se passe des choses exceptionnelles durant sa mort. Alors, bien évidemment, on n'est pas dans le secret d'Allah. On ne sait pas où est Khaltin Najjar. On lui souhaite de tout notre cœur qu'elle soit dans le plus beau des endroits et qu'elle puisse rencontrer son créateur à l'instant venu. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment certaines choses qui se passent. C'est beau, on est content pour elle. Et c'est pour ça que, encore une fois, moi, je pensais à tort que c'était un livre qui était plus adapté aux personnes qui venaient de vivre des deuils. Mais en fait, en réalité, en y réfléchissant, je ne suis pas du tout certaine parce que je pense que peut-être, moi en tout cas, si j'avais vécu un deuil à ce moment-là, je pense que j'aurais trop comparé. J'aurais trop comparé, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut... Ouais, je pense qu'il faut avoir du recul. Il faut aussi se rappeler que Allah, il accorde sa miséricorde à beaucoup de ses créatures. Donc, ce n'est pas parce que on a un proche qui n'a pas eu la mort de Khaltin Najjar que c'est fini pour lui ou c'est fini pour elle. Allahu a'lam.
C'est ça, exactement.
C'est qu'Allah qui le sait. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, il faut vraiment... ce livre-là, encore une fois, c'est pas un livre à prendre pour traverser un deuil. C'est un livre pour préparer sa mort à soi.
C'est important de... Je pense que c'est très important de le rappeler. C'est un livre pour qu'on se rappelle à nous-mêmes. Hein. C'est un vrai rappel. Je pense que si tu lis ce livre et que, je sais pas, après tu dis « Oui, c'était une bonne lecture. Allez, on prend un autre livre derrière. » Je pense que tu passes à côté de quelque chose de très fort. Parce que tout le but, c'est vraiment un rappel. C'est vraiment, vraiment qu'on se rappelle qu'on va mourir. Qu'on se rappelle que Yom Al-Qiyama, c'est... On ne sait pas quand, mais en vrai, c'est quand même bientôt, tu vois. C'est que nous, notre mort, tous les jours, on s'en rapproche. Il n'y a pas de jour où on recule la mort. C'est vraiment tous les jours, on s'en rapproche. Et comment est-ce qu'on veut voir ce jour-là? Est-ce qu'on a envie qu'on se dise « C'est le plus beau jour de ma vie » parce qu'au moment où je meurs, je récite la shahada et que je vois les anges les plus beaux venir recueillir mon âme, ou c'est le début de la fin des temps. Vraiment, et là, pour le coup, malheureusement, on ne pourra plus jamais rien faire.
Mmh. Ben, je te remercie pour ta transparence parce que, encore une fois, ce n'est pas un sujet qui est forcément facile. Et, en fait, ce n'est pas facile d'en parler, pas parce que c'est un sujet qui est lourd pour nous, mais parce que moi, j'ai toujours... pas cette appréhension, mais je voudrais pas que les personnes qui sont passées par là en ayant perdu des proches te disent non, mais elles en parlent avec une légèreté. Bah, alors, vraiment, elles sont franchement, elles ont décollé du sol. Ça fait une heure, elles arrivent pas à redescendre, tu vois. Ça me franchement, en tout cas, c'était pas du tout notre intention de départ. Donc, on espère vraiment que on vous a donné déjà envie de lire ce livre pour ceux qui l'ont pas lu, qu'on vous a donné envie de le relire pour ceux qui l'ont lu. Mais je te remercie vraiment beaucoup parce que c'était une discussion qui était riche et qui nous a permis d'aborder plein de sujets qui étaient vraiment extrêmement passionnants. Donc, je te remercie vraiment beaucoup, Eline. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter, un argument que tu souhaiterais donner encore sur la beauté de cet ouvrage?
Ah oui, mais bien sûr. En fait, il y a un truc en plus, j'y pensais tout à l'heure avant qu'on en parle, c'est à quel point c'est facile d'oublier. C'est très facile d'oublier qu'on va mourir. Moi, je sais que c'est pas quelque chose que je me... Tu vois, j'ai quand même des grands discours, mais c'est pas quelque chose que je me rappelle constamment. Hein. Je suis comme tout le monde, j'ai pas envie de penser non plus à la mort non-stop. Mais le meilleur moyen, quand même, je pense, de se faciliter, en tout cas, ce cheminement vers une belle mort, c'est de se rappeler, qu'elle va mourir, mais de se rappeler de manière générale. C'est-à-dire de... Je vais le rappeler, je suis très chanteuse, j'harcèle mon entourage avec ça, mais de prendre des cours, d'être accompagnée, d'aller à la mosquée, de faire des bonnes œuvres, d'agir de manière perpétuelle. Parce que Allah, il nous a créés avec un oubli constant. C'est une réalité, ça fait partie de notre nature. Exactement. Mais agissons, faisons. Et vraiment, encore une fois, les cours, mashallah, c'est la meilleure manière de faire. Et Khaltin Najjar, ce qu'elle faisait, ce qu'elle dispensait à la fin de la journée, c'était quand même des cours. Hein. C'était ça qu'elle faisait. Donc, je pense que si aussi un rappel grave sera vraiment se rappeler dans ce livre, c'est il faut qu'on prenne des cours.
Eh ben, ce sera le mot de la fin. Je rajouterai rien d'autre à ça parce que je suis tout à fait d'accord. Moi, ma vie, elle a changé aussi quand j'ai commencé à prendre des cours. Franchement, tu ne vis pas ta foi de la même manière. Alors, encore une fois, on n'est vraiment pas parfaite. Hein. Le travail suit son cours. De toute façon, chaque jour qu'on est en plus, c'est pour moi, en tout cas, je le vois comme si un jour, Allah nous dit, tu n'es pas encore arrivé. Hein. Tu peux progresser. Si on est encore là à discuter, c'est qu'on peut encore progresser, n'est-ce pas? Donc, mais franchement, aller chercher le savoir, c'est magnifique. S'entourer de gens qui cherchent le savoir, c'est magnifique. Et on demande vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, de bénir Umeima pour la découverte de Khaltin Najjar. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'élargir grand la tombe de Khalti Najah et qu'elle puisse vraiment accéder au plus beau jardin du paradis et qu'elle soit entourée de toute sa famille. Parce qu'on est des musulmans et que nous sommes une communauté, que nous sommes tous des frères et sœurs en islam, ce qu'on souhaite à Khalti Najah, à sa famille, à ses enfants, à son mari, on se le souhaite à nous. Donc je te le souhaite à toi, Eline, je le souhaite à toutes les personnes qui nous écouteront et je me le souhaite à moi, évidemment. Mais vraiment, qu'Allah ta'ala nous permette de toujours se rappeler lui, comme tu l'as très bien dit, et se rappeler que la mort, c'est une étape et que la vie, c'est un cadeau dans le sens où c'est un élément, encore une fois, qui peut nous permettre d'accéder au paradis. C'est pas tous les jours faciles. Moi, la première, franchement, c'est très difficile aussi pour moi de m'en rappeler. Hein. Je le dis et c'est pour ça que je relis ce livre, hein, c'est que j'oublie. Voilà. Mais en tout cas, qu'Allah ta'ala nous permette de nous rappeler son existence, sa rahma et sa réalité divine, Inch'Allah.
Amin, amin, mashallah.
Merci beaucoup, Eline, pour ton temps, pour les émotions que tu as su me retransmettre à nouveau. J'ai réappris des choses en t'écoutant, donc je suis ravie et j'espère sincèrement que les auditeurs seront ravis tout autant que moi, si ce n'est plus, inchallah.
Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Moi, je te remercie à nouveau, rien que de pouvoir me donner l'occasion de pouvoir parler de ce livre en détail, parce que vraiment, je pense que vous l'avez compris, l'amour que je porte à ce livre, mais il le mérite vraiment et je trouve que c'est... Je loue Allah et je le glorifie de nous permettre d'accomplir cette bonne œuvre aussi pour Najah. Parce que plus on en parle, plus les gens la découvrent et vraiment cette sadaqa janine ne s'arrête jamais. Subhanallah. Et donc, à travers ça, on voit à quel point il nous aime et à quel point il nous facilite beaucoup en fait les bonnes œuvres, etc. Et donc, je te remercie vraiment pour avoir permis de pouvoir parler de tout ça, alhamdoulilah. Et je suis très émue.
C'est sûr qu'on a réussi à tenir une heure sans pleurer. On va essayer de clôturer en étant fiers de nous. Je te remercie vraiment beaucoup, Eline. À très bientôt.
Salut, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.